je vous propose de nous rafraîchir ensemble la mémoire, revenir sur quelques points importants. Nous sommes posés la question évidemment cruciale et première, qu'est-ce que la vie chrétienne? Ou plutôt, qui est-ce que la vie chrétienne? Nous avons dit qu'une méditation du sermon sur la montagne, par exemple, devrait nous amener à nous demander si en réalité une telle vie a jamais été vécue sur la terre, si ce n'est par le Fils de Dieu lui-même. Dans ces derniers mots, nous avons précisément la réponse à notre question. Nous avons évoqué aussi la définition de Paul en Galates 2:20, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et nous avons vu dans ce texte une promesse pour chacun d'entre nous. Un point important, dans toutes nos relations avec nous, Dieu agit pour nous mettre de côté, afin que Christ prenne notre place. Nous pouvons ainsi parler de deux substitutions. Un substitut sur la croix qui nous assure le pardon, un substitut en nous qui nous assure la victoire. Un point sur lequel nous ne reviendrons jamais assez, nous serons toujours aidés et nous serons gardés de beaucoup de confusion si nous nous souvenons toujours du fait que Dieu répondra à toutes nos questions d'une seule manière, par une révélation toujours plus profonde de son Fils. Nous avons ensuite évoqué les trois problèmes posés par nos péchés. Pour nous racheter et nous ramener dans le dessein de Dieu, le Seigneur Jésus avait à résoudre trois problèmes. Des péchés, donc de la colère de Dieu, à notre encontre, de la culpabilité, donc de notre conscience, et des accusations de Satan contre nous. Il nous est clairement montré dans les Écritures que le sang de Christ agit efficacement dans ces trois directions, Dieu, l'homme et Satan. C'est ces deux derniers points que nous aborderons aujourd'hui. Nous avons vu que le sang était avant tout pour Dieu. On a rappelé un épisode dans l'Ancien Testament du souverain sacrificateur, et cette transaction qu'il faisait avec le sang se faisait dans le secret du lieu très saint, loin des regards des hommes. Si le sacrifice était public, comme le sacrifice de Christ, la transaction, elle, se passait loin des regards des hommes. L'Éternel demandait cela, le sang est donc en premier lieu pour lui. Dieu est satisfait. Si je veux connaître la valeur du sang pour moi, il faut que j'accepte ce qu'il signifie pour Dieu. Ici, il n'est pas question d'un sentiment de notre part, mais d'un fait spirituel, qu'il nous faut accepter, c'est-à-dire saisir avec foi et avec joie. Aujourd'hui, nous voyons donc deux points. Le premier, le sang et l'accès du croyant auprès de Dieu. Le sang a satisfait Dieu, il doit aussi nous satisfaire. Il y a une seconde valeur qui est pour l'homme. Il nous faut avoir le cœur purifié des souillures d'une mauvaise conscience. Hébreux 10:22. L'auteur ne nous dit pas seulement que le sang du Seigneur Jésus purifie nos cœurs. Il ne s'arrête pas là dans sa déclaration. Et c'est une erreur que de lier le cœur au sang de cette manière. Si nous prions « Seigneur, purifie mon cœur du péché par ton sang », nous prouvons que nous ne comprenons pas la sphère dans laquelle opère le sang. Le cœur, dit Dieu, est incurablement mauvais, Jérémie 17:9. Dieu doit donc faire quelque chose de plus fondamental que de le purifier. Il doit nous donner un cœur nouveau. Nous ne pensons pas à laver et à repasser un vêtement que nous allons jeter. Comme nous le verrons plus tard, la chair est trop corrompue pour être purifiée. Elle doit être crucifiée. L'œuvre de Dieu en nous doit être quelque chose de complètement nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ézéchiel 36:26. Non, je ne trouve aucun passage qui déclare que le sang purifie nos cœurs. Il est vrai que l'œuvre de purification du sang, selon Hébreux 10, touche à nos cœurs, mais c'est en relation avec notre conscience, ayant nos cœurs purifiés des souillures d'une mauvaise conscience. Que signifie cette expérience? Elle signifie qu'un obstacle intervenu entre moi et Dieu crée en moi une mauvaise conscience toutes les fois que je cherchais à m'approcher de lui. Cette mauvaise conscience me rappelait constamment la barrière qui s'était dressée entre moi et lui. Mais maintenant, l'action du sang précieux a effectué une chose nouvelle qui a enlevé cette barrière et Dieu m'a fait connaître ce fait par sa parole. Lorsque je l'ai cru et accepté, ma conscience a été aussitôt purifiée et mon sentiment de culpabilité a disparu. Je n'ai plus de mauvaise conscience devant Dieu. Nous tous, et chacun individuellement, nous savons combien il est précieux d'avoir dans notre relation avec Dieu une conscience libérée du poids du péché. Oui, un cœur rempli de foi et une conscience affranchie de toute accusation sont deux choses essentielles pour nous, et l'une accompagne l'autre. Dès que nous perdons la paix de notre conscience, notre foi fait naufrage et nous trouvons immédiatement qu'il nous est impossible de nous approcher de Dieu. C'est pourquoi, pour continuer notre marche avec Dieu, il nous faut connaître la valeur toujours actuelle du sang. C'est par le sang que nous pouvons chaque jour, à chaque heure et à chaque instant, nous approcher de lui. Il ne perd jamais son efficacité, il est notre base d'accès au trône de la grâce, si nous nous en saisissons par la foi. Lorsque nous entrons dans le lieu très saint, sur quelle autre base que celle du sang oserions-nous nous appuyer? Mais il faut que je me pose cette question. Est-ce réellement en comptant sur le sang que j'entre en la présence de Dieu, ou bien est-ce que je m'appuie sur autre chose? Qu'est-ce que j'entends en disant « par le sang » Je veux simplement dire que je reconnais mes péchés, que je sais avoir besoin de purification et d'expiation, et que je m'approche de Dieu sur la base de l'œuvre parfaite accomplie par le Seigneur Jésus. Je m'approche de Dieu en m'appuyant sur ses mérites seuls et jamais sur la base de mes propres mérites. Jamais, par exemple, en me fondant sur le fait d'avoir été particulièrement aimable ou patient durant la journée, ou d'avoir fait quelque chose pour le Seigneur ce matin. Je m'approche toujours de Dieu grâce au sang de Christ. Lorsque nous voulons nous approcher de Dieu, la tentation pour beaucoup d'entre nous est de penser que puisque Dieu a agi en nous, puisqu'il nous a fait connaître quelque chose de plus de lui-même, il nous a ouvert les yeux sur les leçons plus profondes de la croix, il a mis ainsi devant nous un but plus élevé qu'il nous faut certainement atteindre pour avoir une conscience claire devant lui. Non, une bonne conscience n'est jamais basée sur une victoire que nous aurions remportée. Elle ne peut être fondée que sur l'œuvre du Seigneur Jésus qui a versé son sang. Certains d'entre nous ont peut-être des sentiments comme ceci. Aujourd'hui, j'ai été un peu plus consacré. Aujourd'hui, j'agis un peu mieux. Ce matin, j'ai lu la parole de Dieu de manière plus recueillie, de sorte qu'aujourd'hui, je puis mieux prier. Ou encore, aujourd'hui, j'ai eu certaines difficultés avec ma famille. J'ai commencé la journée en étant de mauvaise humeur et maussade. Je ne me sens pas très à l'aise maintenant. Il me semble que quelque chose ne marche pas. Je ne peux donc pas m'approcher de Dieu. Quelle est la base sur laquelle nous nous approchons de Dieu ? Est-ce que nous venons à lui sur le fondement incertain de nos sentiments, du sentiment d'avoir pu faire aujourd'hui quelque chose pour Dieu ? Ou bien nous appuyons-nous sur un fondement beaucoup plus sûr, c'est-à-dire sur le fait que le sang a été versé et que voyant ce sang, Dieu est satisfait. Naturellement, s'il était possible de concevoir que la vertu du sang puisse être changée, la base sur laquelle nous nous approchons de Dieu serait moins digne de confiance. Mais la vertu du sang n'a jamais changé et elle ne changera jamais. Nous pouvons donc toujours nous approcher de Dieu avec hardiesse. Nous avons cette assurance à cause du sang et jamais en raison de nos mérites personnels. Quelle que soit la mesure de nos mérites, aujourd'hui ou hier, dès que nous nous approchons consciemment du lieu très saint, il faut immédiatement nous appuyer sur le fondement sûr et unique du sang versé. Que nous ayons eu une bonne journée ou une mauvaise journée, que nous ayons péché consciemment ou non, le fondement sur lequel nous nous approchons du Seigneur reste le même, le sang de Christ. C'est la base sur laquelle nous pouvons entrer en sa présence, il n'y en a pas d'autre. Comme dans beaucoup d'autres étapes de notre expérience chrétienne, cette question de notre accès auprès de Dieu comporte deux phases, une phase initiale et une phase progressive. La première nous est présentée dans Éphésiens 2 et la seconde dans Hébreux 10. Au début, notre position devant Dieu est assurée par le sang, car nous avons été rapprochés par le sang de Christ. Éphésiens 2, verset 13. Par la suite, le fondement de notre accès continuel auprès de Dieu demeure encore le sang, car Paul nous exhorte ainsi, « Puisque nous avons un libre accès dans le lieu très saint grâce au sang de Jésus, approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. » Hébreux 10, versets 19 à 22. Pour commencer, j'ai été rapproché par le sang, et pour continuer dans cette nouvelle relation, j'ai toujours recours au sang. Ce n'est pas que j'ai été sauvé sur une certaine base et que je maintienne ensuite ma communion avec Dieu sur une autre base. Vous me direz, c'est très simple, c'est le béaba de l'Évangile. Oui, mais le malheur pour beaucoup d'entre nous, c'est que nous nous sommes éloignés de ce béaba. Nous avons pensé avoir fait des progrès et pouvoir par conséquent nous en dispenser, mais nous ne pourrons jamais le faire. Non, je me suis approché de Dieu la toute première fois par le moyen du sang, et chaque fois que je me présente devant lui, il en est de même. Jusqu'à la fin, ce sera toujours et uniquement sur la base du sang de Christ. Cela ne signifie nullement que nous devions vivre une vie insouciante. En effet, nous étudierons une prochaine fois un autre aspect de la mort de Christ qui nous montrera quelque chose de tout différent. Mais pour l'instant, appuyons-nous sur le sang qui a été versé pour nous et qui nous suffit. Nous pouvons être faibles, mais ce n'est pas en regardant à notre faiblesse que nous deviendrons forts. Ce n'est pas en sentant notre misère et en faisant pénitence que nous serons rendus plus saints. Aucune aide ne peut être trouvée dans ce sens. Ayons donc la hardiesse de nous approcher en nous appuyant sur le sang et disons « Seigneur, je ne connais pas pleinement la valeur du sang, mais je sais que le sang t'a satisfait. C'est pourquoi le sang me suffit. Il est mon seul recours. Je le vois maintenant, que j'ai vraiment progressé ou non, que je sois parvenu à quelque chose ou non, je ne pourrai jamais me présenter devant toi sur une autre base que celle du sang précieux. Alors, notre conscience sera réellement libre devant Dieu. Aucune conscience ne sera jamais purifiée en dehors du sang. C'est le sang qui nous donne de l'hardiesse devant Dieu. Plus aucune conscience des péchés. Quelle merveilleuse déclaration nous avons dans Hébreux 10, 2. Nous sommes purifiés de tout péché. Nous pouvons véritablement faire écho aux paroles de Paul. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute point son péché. Romains 4, verset 8. Nous en venons maintenant au deuxième point, la victoire sur l'accusateur. Après ce que nous venons de dire, nous pouvons maintenant faire face à l'ennemi, car il y a un autre aspect des vertus du sang qui concerne Satan. L'activité stratégique de Satan consiste à accuser les frères. Il a été précipité, l'accusateur de nos frères, qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Apocalypse 12, 10. C'est dans ce rôle que notre Seigneur le tient en échec par son ministère particulier de souverain sacrificateur avec son propre sang. Hébreux 9, verset 12. Comment le sang peut-il donc être efficace contre Satan? C'est qu'il met Dieu du côté de l'homme contre cet adversaire. La chute a introduit dans l'homme quelque chose qui a donné à Satan une place en lui. Dieu a alors été obligé de se retirer. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. En raison de ce qu'a fait l'homme, il y a en lui un obstacle qui, jusqu'à ce qu'il soit enlevé, rend Dieu moralement incapable de le défendre. Mais le sang enlève cette barrière. Il rend l'homme à Dieu et Dieu à l'homme. L'homme est maintenant sous la protection divine et parce que Dieu est de son côté, il peut sans crainte faire face à Satan. Nous nous souvenons de ce verset dans la première épître de Jean, dont voici la traduction que je préfère. « Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de chaque péché. » 1 Jean 1, verset 7. Ce n'est pas exactement tout péché, dans le sens général, mais chaque péché, chacun en détail. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu est dans la lumière, et si nous marchons dans la lumière avec lui, tout est à nu et à découvert dans cette lumière, de sorte que Dieu peut tout voir, et cependant, le sang peut nous purifier de chaque péché. Cela ne signifie pas que je ne me connaisse pas profondément moi-même ou que Dieu n'ait pas une parfaite connaissance de moi. Ce n'est pas non plus que j'essaye de cacher quelque chose, ni que Dieu essaye de ne pas le remarquer. Non, il est dans la lumière et je suis moi aussi dans la lumière. Et c'est là que le sang précieux me purifie de chaque péché. Le sang est suffisant pour cela. Quelques-uns d'entre nous, accablés par leur propre faiblesse, ont pu parfois être tentés de penser qu'il y a des péchés presque impardonnables. Souvenons-nous alors de cette parole. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de chaque péché. Grand péché, petit péché. Péché que je pense pouvoir être pardonné et péché qui me paraissent impardonnables. Oui, tous les péchés, conscients ou inconscients, ceux dont je me souviens et ceux que j'ai oubliés, sont contenus dans ces mots, chaque péché. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de chaque péché et il peut le faire parce qu'en premier lieu, il satisfait Dieu. Puisque Dieu, qui voit tous nos péchés, peut les pardonner à cause du sang, quelle base d'accusation reste-t-il à Satan ? Satan peut nous accuser devant Dieu, mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Romains 8, verset 31. Dieu lui montre le sang de son Fils bien-aimé et c'est la réponse suffisante contre laquelle Satan n'a aucun recours. Qui accusera les élus de Dieu ? Dieu est celui qui les justifie. Qui les condamnera ? Jésus-Christ est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Romains 8, versets 33 à 34. Nous avons donc ici encore besoin de reconnaître l'efficacité absolue du sang précieux. Christ est apparu comme grand prêtre et après nous avoir acquis une rédemption éternelle, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint en offrant son propre sang. Hébreux 9, versets 11 à 12. Il a été le rédempteur une fois pour toutes. Il est désormais souverain sacrificateur et avocat depuis plus de 2000 ans. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 1 Jean 2, versets 1 à 2. Quelle doit donc être notre attitude à l'égard de Satan ? Cette question est importante, car l'ennemi nous accuse non seulement devant Dieu, mais aussi dans notre propre conscience. Tu as péché. Et tu continues à pécher. Tu es faible et Dieu ne peut plus rien faire pour toi. C'est l'arme dont il se sert. Alors nous sommes tentés de regarder en nous-mêmes pour essayer de nous défendre contre lui et chercher dans nos sentiments ou notre conduite une raison de croire que Satan a tort. Ou bien nous sommes tentés de reconnaître notre faiblesse et tombons dans l'autre extrême de céder au découragement ou au désespoir. L'accusation devient ainsi l'une des armes de Satan les plus fortes et les plus efficaces. Il nous fait voir nos péchés et cherche à nous en accuser devant Dieu. Et dès que nous acceptons ces accusations, nous nous laissons abattre. La raison pour laquelle nous acceptons si facilement ces accusations, c'est que nous espérons encore avoir quelque justice en nous. Si tel est le cas, la base de notre espérance est mal fondée. Satan a ainsi atteint son but et nous resterons accablés par notre faiblesse. Mais si nous avons appris à ne mettre aucune confiance dans la chair, nous ne serons pas étonnés lorsque nous péchons, car la nature même de la chair est péché. Comprenons-nous ce que je veux dire ? C'est parce que nous ne sommes pas encore arrivés à connaître notre vraie nature et à voir combien nous sommes impuissants que nous avons encore de l'espoir en nous-mêmes et que nous sommes écrasés dès que Satan vient nous accuser. Dieu a le pouvoir de régler la question de nos péchés, mais il ne peut rien faire pour un homme abattu par les accusations de Satan. Parce qu'un tel homme ne met pas sa confiance dans le sang de son Fils. Le sang parle en sa faveur, mais lui prête l'oreille à Satan. Christ est notre avocat, alors que nous, les accusés, restons du côté de notre accusateur. Nous n'avons pas reconnu que nous n'avions pas mérité en nous-mêmes autre chose que la mort, que comme nous le verrons prochainement, nous ne sommes dignes que d'être crucifiés. Nous n'avons pas reconnu que Dieu seul peut répondre à l'accusateur et que par le sang précieux, il l'a déjà fait. Notre salut consiste à tourner nos regards vers le Seigneur Jésus et à voir que le sang de l'agneau a fait face à la situation créée par nos péchés et l'a résolue. C'est là le sûr fondement sur lequel nous sommes. N'essayons jamais de répondre à Satan par notre bonne conduite, mais toujours par le sang. Oui, nous sommes pécheurs, mais loué soit Dieu, le sang nous purifie de chaque péché. Dieu regarde le sang par lequel son Fils a répondu à l'accusation et Satan n'a plus de base pour nous attaquer. Notre foi dans le sang précieux et notre refus de quitter cette position seuls peuvent réduire au silence ses accusations et le mettre en fuite. Qui accusera les élus de Dieu ? Dieu est celui qui les justifie. Qui les condamnera ? Jésus-Christ est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il en sera ainsi jusqu'à la fin. Il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage et n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Apocalypse 12, 10 à 11. Quelle libération ce serait pour nous si nous discernions mieux la valeur qu'a aux yeux de Dieu le sang précieux de son Fils bien-aimé. Je vous propose de revenir sur les 10 points que nous avons vus ce matin. Le sang est l'accès du croyant auprès de Dieu. Est-ce réellement en comptant sur le sang que j'entre en la présence de Dieu ou bien est-ce que je m'appuie sur autre chose? Une bonne conscience n'est jamais basée sur une victoire que nous aurions remportée. Elle ne peut être fondée que sur l'œuvre du Seigneur Jésus qui a versé son sang. Puisque nous avons un libre accès dans le lieu très saint grâce au sang de Jésus, approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié des souillures d'une mauvaise conscience. La victoire sur l'accusateur. Qui accusera les élus de Dieu ? Dieu est celui qui les justifie. Qui les condamnera ? Jésus-Christ est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. La raison pour laquelle nous acceptons si facilement les accusations de Satan, c'est que nous espérons encore avoir quelque justice en nous. Notre foi dans le précieux sang et notre refus de quitter cette position seuls peuvent réduire au silence les accusations et le mettre en fuite. Je vous laisse ce verset. Il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort.